Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, entre 16h30 et 18h. Émission qui va démarrer par une large séquence consacrée au festival Les Latitudes Contemporaines.
Latitude Contemporaine, le festival international de la scène contemporaine qui se poursuit jusqu'au 9 juillet, fête cette année ses 15 ans. Pour l'occasion, le magazine Quoi de Neuf a consacré 3 émissions pour traiter de ce festival qui célèbre la diversité contre l'uniformité. Retrouvez notre dernière émission Quoi de Neuf spéciale Latitude Contemporaine, mercredi 21 juin à 16h30 sur nos ondes, 106.6 FM.
Voilà, troisième émission, donc troisième volet, j'allais dire, de ce festival, puisque nous aurons l'occasion aujourd'hui de parler, d'évoquer quelques spectacles de la semaine, pourquoi pas aussi de faire éventuellement un petit retour en arrière depuis le début, mais aussi de voir ensemble quelles propositions existent encore pour notamment samedi au LAM, et puis revenir aussi sur un spectacle qu'on a vu à Roubaix et qu'on reverra dans le Pas-de-Calais, donc Ardelot en juillet. Voilà, nous sommes en compagnie de Maria Carmela Mini, donc directrice du festival Latitude Contemporaine. Bonjour Maria Carmela.
Bonjour.
Et donc d'Elsa Témoin, bonjour, qui donc a suivi l'ensemble de ce festival avec moi pour Radio Campus. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Voilà, donc on va faire un petit peu le point sur cette période, hein, donc troisième séquence d'émission. On va reprendre peut-être quelques éléments, quelques spectacles qui ont marqué les spectateurs et pourquoi pas qui nous ont marqué également, puisque le but c'est de partager justement des émotions, des expériences, Maria Carmela Mini.
Oui, oui, surtout des expériences. là, on est presque au bout du parcours du festival et on peut déjà dire qu'en termes de public et en effet de réception des spectacles par le public, c'est une très belle édition. Enfin, j'ai que des bons retours et c'est un festival qui est à la fois comme souvent pour les latitudes contemporaines, bousculer le public dans sa perception des choses, dans ses émotions, mais qui en même temps a amené beaucoup d'émotions en effet et de belles esthétiques et avec des propositions extrêmement variées et en provenance de quasiment tous les continents, ou presque en tous les cas, et ça c'était très agréable à vivre. Donc pour les auditeurs, donc je le rappelle, cette édition était vraiment consacrée aux diversités en scène et je crois que oui, il y avait beaucoup de diversité en scène, à la fois dans les formes mais aussi dans les différentes cultures qui ont été présentes.
Voilà, et même une réflexion autour de ce thème, la diversité, et je crois qu'Elsa, tu as assisté à une partie de rencontres autour de ce thème, et notamment l'après-midi avec la représentation des femmes dans la programmation notamment.
Oui, ça parlait de ça notamment, donc c'était vendredi soir à la Gare Saint-Sauveur, non vendredi soir, vendredi après-midi, excusez-moi, à la Gare Saint-Sauveur. Donc il y avait un débat toute l'après-midi pour le public, le matin c'était réservé aux professionnels, et donc il y avait une table ronde autour du thème de la diversité, donc il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés, et la parité aussi, ça a beaucoup été traité par les intervenants, exactement. Et donc, j'ai fait un petit reportage sur ce sujet-là.
Très bien, on va l'écouter, on en discute tout de suite après.
Lorsqu'on m'a confié un théâtre, j'ai fait confiance à mon féminisme pour avoir une programmation paritaire. Et que lorsque j'ai compté, au bout de deux saisons, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis à 35%. C'est quand même fou. J'étais persuadé, puisque j'avais cette volonté-là, j'ai cet élan-là, je vais voir des spectacles de femmes, on en programme avec mes collègues. Il y en a suffisamment, j'en vois, donc du coup, il n'y a pas de problème. si je ne me mets pas à compter, je ne peux pas voir que je reproduis des inégalités, que mon propre regard, moi, que j'imagine être en déconstruction en tout cas, reproduit ces choses-là. Si c'était simplement la volonté qui pouvait faire changer les choses, bah, à en croire les éditos de tous les théâtres de France, on aurait tous des programmations absolument altruistes et égalitaires. C'est pas le cas.
On n'imagine pas que quelqu'un d'autre, ayant une autre culture, d'un autre rapport à la scène, d'un autre rapport à la musique, d'un autre rapport au corps, puisse apporter une autre vision totalement différente de quelque chose à quoi on est habitué et de surcroît nous apporter des connaissances dont on n'a même pas le soupçon.
Aujourd'hui, ces questions de diversité qui nous ont servi et qui nous servent encore sont problématiques dans le renfermement et dans la sécurisation, etc.
En tant que franco-algérien, je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit là. Mais je veux dire, je vois aussi souvent des gens dire oui, vous ne nous donnez pas ça, vous ne faites pas ça pour nous, etc., etc. Mais je ne vois pas des gens s'émanciper. On ne peut pas l'attendre de l'extérieur, en fait, cette lutte-là. On doit la faire dans le vivre ensemble. On doit la faire ensemble et on ne peut pas, on s'exclut même aussi en disant donnez-nous, moi j'ai pas envie qu'on me donne l'autorisation d'être citoyenne française, j'ai pas envie qu'on me donne l'autorisation d'être une artiste qui crée, j'ai pas envie qu'on me dise oui, ok, tu es une artiste. On parlait tout à l'heure de qui dit qu'on est artiste, et bien c'est moi qui dis que je suis artiste, c'est moi qui propose quelque chose dans mes créations. Et je ne me sens pas jugée. Ouais, t'as dit, j'ai plutôt envie de prendre le versant apaisé de l'intelligence.
Il faut changer le monde. Il faut véritablement qu'on se dise que dans nos têtes, non, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas imaginer qu'une femme ait les mêmes compétences qu'un homme. C'est pas possible de ne pas imaginer que moi, en tant qu'homme, je suis dominant et j'interdis à quelqu'un l'opportunité d'exister.
Voilà donc quelques petits extraits, hein, sachant que la journée a été longue et passionnante à vivre, Elsa.
Oui, c'était très passionnant. Le débat a duré, je pense, 2 heures, quelque chose comme ça. C'était super intéressant parce que les gens étaient très vifs. 3 heures.
Finalement, ça passe vite.
Finalement, ça passe très vite.
Alors, on a compris, hein, dans cette diversité, il y a plusieurs angles, bien sûr. Donc, la diversité en termes homme-femme, peut-être, hein, et notamment cette dimension de quand on programme et qu'on est homme, est-ce qu'on est plus ou moins influencé par la programmation, une programmation qui a une autre tenue, on va dire une autre teneur que quand on est programmatrice femme. Alors la question se pose, et Maria Carmela Mini, alors en tant que programmatrice femme, est-ce que ça change la donne?
Oui, j'en suis persuadée, parce que alors c'est David Bobé qui parlait, et il le dit très clairement. C'est sûr que c'est très très compliqué, parce que même lui qui compte le nombre de spectacles, il se rend compte que, alors qu'il est hyper motivé, comme il dit, très féministe, il n'arrive pas à une parité. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début du festival, que le festival existe, moi j'ai toujours réussi à maintenir la parité, mais presque de manière naturelle. Alors je me dis que sans doute c'est la raison est que je suis moi-même une femme et que je suis peut-être plus sensible de manière intuitive et sensible, j'ai envie de dire, aux causes des femmes. Et bon, je suis très féministe, hein, tout le monde aura remarqué, donc si on regarde la programmation du festival, et je pense que ça aide, oui, enfin, d'être femme et d'avoir une attention particulière portée sur la cause des femmes dans le monde entier, sur tous les points de vue et pas seulement d'un point de vue artistique.
Alors justement, est-ce que l'offre par rapport à des spectacles où des femmes interviennent ou même portent les projets est suffisante pour équilibrer les choses?
Je crois que c'est un travail de très longue haleine et c'est un peu ce qui a été dit en clôture de ces discussions ce vendredi. C'est que je crois que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et là où il se trouve. C'est-à-dire que ça, si on veut vraiment travailler sur la parité, ça doit commencer par les politiques, ça doit commencer par les élus locaux, ça doit commencer, et toute la chaîne en fait de décisions, que ça soit, je dirais même à partir de la présidence de la République jusqu'au programmateur, si on prend toute la chaîne de décisions en tous les cas en ce qui concerne la culture, je crois qu'à tous les niveaux, et je pense qu'aussi les créateurs ont une grande responsabilité. Si on prend le théâtre, plus il y aura de rôles importants dans les écritures, par exemple, de textes théâtraux, plus il y aura des femmes sur le plateau. Et plus la question est à aborder à un moment sur les financements des projets des femmes par rapport en théâtre. Les metteuses en scène ont environ 30% de moins de subventions que les metteurs en scène. Et ça, c'est une vraie question.
On retrouve ça dans le sport aussi.
Tout à fait. Et donc, voilà, je crois que chacun à son niveau et à l'endroit où il est en tant que responsable doit se poser la question. Et je crois que nous, en tant que programmateurs, on peut amener notre pierre, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Et elle est importante. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça, c'est très important, mais je pense que ça doit se faire à tous les échelons de décision.
Alors voilà pour la diversité termes de genre, on va dire, hein, sachant qu'il y a des genres qui sont pas trop définis, ni hommes ni femmes, et qui sont aussi parfois représentés dans ces spectacles.
Absolument, oui. En fait, je me pose pas la question, à vrai dire.
Donc l'aspect comptable des choses, c'est quand même quelque chose d'un peu triste, finalement.
Oui, mais David Bobet a raison de dire que, et je crois que qu'au bout d'un moment de la discussion, tout le monde autour de la table était assez d'accord avec ça, sur le fait qu'à un moment, il faut passer par le comptable. Ça fait, je ne sais pas, en tous les cas, dans le spectacle vivant et dans le milieu de la culture, ça fait 10 ans qu'on essaye de trouver la parité et elle n'est toujours pas là. Donc, et même ces dernières années, ça s'est même dégradé. Donc si de manière... sans critères, sans calculer, sans quota, pour utiliser un mot terrible, je trouve. On n'y arrive pas, il va bien falloir passer par là, parce que sinon, ça va, dans 20 ans, on y est encore. Quoi. Donc,
Alors, je suppose que si on prend les théâtres conventionnés ou les scènes nationales, elles ont des comptes à rendre, forcément. Est-ce qu'elles présentent ça dans leur bilan ?
Bien sûr, oui. Et puis, il y a souvent régulièrement des études qui sont faites. Il y en a une qui est sortie, je pense qu'il y a 3-4 mois peut-être, qui a été réalisée par un syndicat. Le syndicat, pardon. Donc par le Syndéac, et c'est là où on s'est aperçu que malgré toutes les préconisations, les efforts qu'on demandait aux uns et aux autres, ça s'était dégradé. Donc qu'est-ce qu'on fait
C'est vrai aussi que des responsables de théâtre, hein, peut-être même de syndicats comme le Syndéac, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de femmes.
Ben, la présidente est quand même une femme.
Globalement.
Je crois qu'elle a fait attention quand même à ça. Elle a commencé par le Syndéac, je crois, Madeleine Noir. Elle est assez engagée sur ces questions. Après, ce n'est pas suffisant. C'est sûr que dans les scènes nationales, il y a 30% de femmes qui sont à la direction des scènes nationales. Les opéras, je crois qu'elles sont... Enfin, il n'y a que Caroline Sorier.
À Lille, ça va.
Sur je ne sais pas combien d'opéras en France, les centres chorégraphiques qui étaient normalement une majorité de femmes étaient à la direction des centres chorégraphiques et là c'est une majorité d'hommes, donc voilà, c'est vraiment ça a basculé. Donc voilà, enfin il y a vraiment un réel travail à faire sur ces questions-là et Madeleine Noir est très très attentive vraiment à ce sujet.
Voilà, donc profiter d'un festival pour mettre en chantier ce genre de problématique, c'est évidemment l'occasion, puisque vous rencontrez des professionnels.
Tout à fait, oui. Et alors le matin, justement, c'était consacré aux professionnels, parce que il me semblait important avant de poser la question aux autres, de me la poser à moi-même, et en particulier sur les métiers de la production, et donc sur la question de la diversité. Là, c'était plutôt la question de la diversité, non pas de genre, mais plutôt de niveau social. Et on s'aperçoit quand même que les métiers de la culture sont accessibles plutôt à des personnes qui sont en tous les cas la classe moyenne ou la classe supérieure.
Alors, et quand on dit accessible, c'est pas forcément une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de contexte.
Oui, tout à fait, je parle de contexte, je parle pas d'argent en effet. Et presque il y a une sorte de censure qui s'opère quand on vit dans une banlieue, on s'interdit presque à faire les... à dire tout de suite le réflexe, c'est la culture, c'est pas pour moi. Et ça, c'est une vraie question, parce que moi-même, qui suis extrêmement sensible à ces questions, j'ai du mal à recruter des gens, du personnel qui vient de des classes sociales plus en difficulté. Enfin, pour moi, ce n'est pas normal. Je ne peux pas me satisfaire de ce constat. Donc il y a un travail à faire. Et le matin, donc, on était à plusieurs producteurs de spectacles à faire le même constat et essayer de trouver des réponses à ça, et à mettre en place surtout des outils qui vont favoriser un changement de perception, un changement d'habitude, un changement de regard sur nous-mêmes, sur les gens qui viennent de classes sociales difficiles et les personnes en difficulté socialement à s'intéresser au métier de la culture. Enfin, c'est un des secteurs d'activité qui est le plus en développement aujourd'hui, je pense, dans le monde entier. On est un secteur qui crée de l'emploi et on n'arrive pas à s'ouvrir à une classe sociale qui est en difficulté. C'est vraiment difficile.
Enfin. Alors, ce n'est pas faute de proposer des représentations, comme hier, par exemple, au Grand Sud, qui est dans un quartier quand même populaire.
Tout à fait, oui. Alors ça, on est plus dans le domaine de l'esthétique et de faire entrer les gens dans les salles. Mais là, moi, précédemment, je parlais plus des emplois et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de former des gens qui viennent en effet des quartiers populaires.
Est-ce que le fait qu'un public populaire aille voir des spectacles ne pourrait pas s'engager ensuite à y chercher un emploi ou à trouver un intérêt aussi à s'orienter?
Oui, je dis souvent que moi je crois au choc esthétique. Ouais. Donc, secrètement, au fond de moi-même, j'ai toujours l'espoir qu'un jeune des quartiers populaires, et c'est pour ça qu'on fait ce gros travail de médiation avec mon équipe, mais pour que favoriser l'accessibilité aux jeunes des quartiers difficiles, à rentrer dans les salles et j'ambitionne à chaque ouverture de porte de théâtre qu'il y en ait au moins un dans la salle qui va avoir un choc esthétique, qui va dire ouais, j'ai envie de faire un travail dans la culture. Mais ça arrive, on a eu vraiment des retours et des gens qui se sont engagés dans les métiers de la culture parce qu'en effet ils ont vu des spectacles à l'attitude, mais j'aimerais qu'il y en ait plein en fait.
Alors un peu avant l'émission, on discutait avec Elsa pour changer le monde, il faudrait, puisque nous on a un peu d'avance dans le domaine, on va dire, des arts d'une manière générale, on a quand même encore un peu d'imagination au pouvoir, et les artistes ont un rôle, ont un statut en France, justement par rapport à d'autres pays où c'est plus compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas jouer cette carte pour aller au-delà et faire que l'art du spectacle, mais aussi d'une manière générale les arts plastiques ou autres, puisse donner une valeur ajoutée à tout ce qu'on peut faire en France, contrairement à d'autres pays où il n'y a pas ça au départ, qui se lancent plutôt dans l'évolution technologique sans que cet aspect artistique soit pris en charge. Nous, est-ce que ce n'est pas finalement ce qui pourrait faire notre différence ?
Oui, il y a vraiment une carte à jouer là-dessus, c'est évident. Et je pense que les pouvoirs publics ont un rôle important là-dessus. Donc il y a toute une réflexion, en effet, à mettre en place. Mais c'est un travail de titan presque. On essaye au quotidien de le faire et en espérant que ça puisse, en effet, créer, en tous les cas, un dialogue et sensibiliser les élus avec lesquels on travaille à ces questions et ces problématiques. On est en effet tous responsables, et, y compris les artistes. Mais je pense que c'est en s'y mettant tous qu'on arrivera à améliorer les choses.
Alors, hier, on a pu voir en début de programmation un spectacle justement avec deux cultures qui se rencontraient sans s'affronter, savoir une artiste chorégraphe danseuse taïwanaise, oui, et si j'ai bien compris, un danseur français.
C'est un musicien. Donc François-Marie, qui est le compositeur du groupe François et the Atlas Mountain. Donc il y a un groupe qui commence à être très connu maintenant. Il fait les tournées, concerts rockéennes, etc. Enfin les gros festivals de plus en plus. Et en effet, quand Yifang Li, qui est la chorégraphe, m'avait présenté ce projet avant la création, donc j'avais pas vu le spectacle avant de le présenter, et ce qui m'intéressait, c'était justement cette rencontre entre un occidental et musicien et une taïwanaise danseuse et chorégraphe, et comment cette rencontre pouvait se faire avec amour et avec simplicité et sans le côté lost in translation, j'ai envie de dire. Et je crois qu'ils se sont bien amusés en tous les cas dans ce spectacle, enfin la création. Et c'est très touchant en fait de les voir tous les deux aller d'une part sur le territoire homme-femme, chacun l'un et l'autre, donc s'approprier le territoire du genre et ensuite le territoire artistique, c'est-à-dire un chorégraphe, un musicien, et troisième étape les territoires culturels, c'est-à-dire François-Marie qui essaye de chanter le chinois et Yifang qui essaye de chanter et s'approprier l'instrument de la guitare électrique qu'il ne sait pas faire, quoi. Donc voilà, c'était très beau à voir.
Ni wen guo ai ni you duo shen wo ai ni you qi fei wo di qing ye zhen wo di ai ye zhen yue liang.
Alors voilà, pour nous remettre dans l'ambiance du spectacle d'hier, un grand classique, hein, puisque cette artiste-là est taïwanaise et elle a été tout de suite adoptée par les Chinois de la Chine continentale, comme beaucoup d'ailleurs de chanteurs taïwanais qui ont puisé quand même leur musique dans ce qui se faisait en Occident et qui amenait bien sûr un sang très nouveau à la scène artistique musicale. Donc on retrouve hein, cette chanson et puis des choses plus classiques. On écoutera pour terminer cette séquence tout à l'heure un grand classique de la musique chinoise qui est interprété même par des orchestres symphoniques, c'est dire. Et donc voilà, c'est une chanteuse donc de référence qui a maintenant un certain âge hein, et qu'on retrouve alors dans les karaokés partout en Chine continentale. Hein, quand on va dans ces karaokés, on peut chanter avec les personnes chinoises qui nous accompagnent sur cette chanson notamment. Et on voit cette personne à la fois quand elle était jeune et qu'elle chantait cette chanson, puis on la revoit actuellement avec sa forme actuelle physique et on se dit waouh, 30 ans nous séparent, les chansons restent, les personnes changent et ça reste des moments qui favorisent les échanges, la rencontre et aussi la fête.
Tout à fait, oui. Et c'est tout à fait ce que veut raconter Yves Fanmin dans son spectacle. Donc, vous avez très, très bien compris, René.
Alors, je disais tout à l'heure danseur, mais qui est musicien, surtout musicien, il est excellent, quoi. Je veux dire, d'abord parce qu'il amène le contre-pied, on peut dire, ces chansons-là. Il amène un univers. On peut dire de création musicale.
Tout à fait.
Avec des boucles sonores, avec un Moog qui envoie des sons et un système qui lui permet d'être réactif et d'envoyer des sons à distance. Et sa guitare, il joue très, très, très bien de la guitare.
Ça, oui.
Il est vraiment excellent. Voilà, donc c'est un duo pour moi assez étonnant. D'abord parce qu'on ne l'imagine pas au départ, donc quand on voit le spectacle, forcément on est impressionné par la qualité de leurs échanges.
Tout à fait, oui. Et en fait, en chinoiserie, donc le spectacle dont on parle, c'est un spectacle qui a été créé en 90 par Mathilde Monnier et Louis Clavis, qui étaient tous les deux sur scène. Et donc, Yves Fanmin était une très très grande et pendant très longtemps interprète de Mathilde Monnier. Il y a une relation presque fusionnelle entre elles deux et donc Mathilde a offert ce duo à Yves Fanmin qui l'a repris en effet avec François-Marie. Donc il y a aussi quelque chose, tu parlais du temps qui passe, et il y a aussi quelque chose du temps qui passe dans l'acte de transmettre aussi de Mathilde Monnier qui a fait cette pièce en 90 avec qui la donne à Yves Fanmin pour qu'elle la crée en 2017. Donc oui, il y a quelque chose de très beau là-dedans.
Moi, je trouve que Mathilde Monnier était en quelque sorte assez visionnaire quand même.
Tout à fait. oui, absolument.
Alors, c'est vrai. Alors, quand on va écouter maintenant la chanson, la musique là, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est un grand classique, on va dire, de la musique chinoise. Et quand un orchestre français, par exemple l'ONL, hein, vient en Chine, il joue cette musique-là pour dire de faire le pont entre l'Occident et l'Orient. Hein. Donc c'est pas rien quand même. Mais par contre, dans le spectacle d'hier, on sent bien que cette chanson, enfin cette musique-là, bon, il arrive un moment, ça va bien, quoi.
Tout à fait.
Donc il faut en sortir. Et là, justement, ce spectacle-là, c'est, j'allais dire, une entrée vers la sortie.
Oui, et puis je pense que il y a dans l'extrait qu'on écoutait tout à l'heure sur les diversités, il y a une des intervenantes qui disait il faut savoir aussi changer de point de vue quelque part hein, de là où on parle et ne pas toujours regarder les choses avec notre regard occidental. Et justement, c'est aussi ça qui est dit dans le spectacle, c'est regarder aussi de mon point de vue, de là où je pars, d'un point de vue historique et culturel. Je vais aller rencontrer l'Occident, mais il faut que vous regardiez aussi du côté de l'Orient pour comprendre.
Voilà. Alors c'est vrai que la Chine, c'est grand. Taïwan, on appelle ça d'une façon délicate la partie non continentale de la Chine. C'est l'endroit où ça a beaucoup bougé, bien sûr. Taïwan, Hong Kong, évidemment. La Chine va finir aussi par bien évoluer dans le domaine culturel. Pour l'instant, la Chine évolue dans le domaine économique et le domaine technologique. Tout cela, bon, on est sur de belles aventures encore.
Tout à fait, oui, absolument.
Donc merci d'avoir proposé ce très beau spectacle que moi j'ai adoré personnellement. Après, c'est vrai que présenter ça à un public qui n'est pas sensibilisé forcément, ça peut éventuellement poser question pour le public. Hein.
Oui, oui, tout à fait, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. On est là pour défricher.
Tout à fait.
Voilà donc une des chansons, une des musiques qu'on a pu entendre dans le spectacle En Chinoiserie de Yifeng Ling et François-Marie hier soir dans le cadre de ce festival Latitude Contemporaine, en première partie, je ne sais pas si on peut dire en première partie, avant en tout cas, le spectacle Parades Change Replay in Expansion.
C'est ça.
Je dis ça comme ça.
Oui, oui. Donc un spectacle de Anne Colo, donc qui est aussi une transmission d'une pièce légendaire hein, de Anne Alprin. Une pièce de 1965. Anne Alprin a été une très très grande militante de la libération des femmes, de la libération. De toute façon, elle luttait contre toutes les discriminations possibles et inimaginables, et à la fois dans les rues mais aussi sur scène, et donc elle a vraiment révolutionné l'art de la chorégraphie dans son pays dans les années 40 hein, donc c'est vraiment une très très grande figure de la chorégraphie américaine, et qui a une relation très privilégiée avec Anne Colo. Là aussi il y a quelque chose de la relation mère-fille, et donc Anne Alprin a offert cette pièce Paradigm Change Replay in Expansion à Anne Colo, qui l'a retravaillée et qui l'a remise un peu au goût du jour avec des références beaucoup plus actuelles. Dans les objets par exemple, puisque c'est un spectacle avec énormément d'objets sur scène, donc évidemment les objets qui étaient sur scène en 65 ne sont pas les mêmes qu'en 2017. Anne Colo a aussi ajouté toute une partie avec des circassiens qui est assez magnifique d'ailleurs hein, dans dans la pièce. Et donc c'était aussi une manière de parler, comme je disais tout à l'heure, de la transmission et de pièces qui ont marqué vraiment l'histoire du spectacle vivant et de la chorégraphie au XXe siècle. Donc
c'est un spectacle qui a été présenté, je crois, à Paris, il n'y a pas très longtemps.
Oui, au Centre Pompidou. Donc, en effet, la soirée d'hier était la soirée des 40 ans du Centre Pompidou, puisque l'Attitude Contemporaine est partenaire des 40 ans du Centre Pompidou. Et donc, ces deux spectacles avaient été présentés également au Centre Pompidou et donc repris aux Latitudes Contemporaines.
Alors, c'est vrai qu'à une époque, ce spectacle a été interdit pendant longtemps, d'ailleurs aux États-Unis,
oui.
Pour cause de nudité. Quand on voit ça maintenant, on ne peut être que se dire que c'est du passé, tellement ça ne choque plus personne.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, des personnes du public hier m'ont dit, alors qu'elle a été créée en 65, la pièce est hyper contemporaine et le seul moment qui paraît daté, c'est le moment de la nudité, parce qu'en fait...
Voilà, c'est marrant. ça me rappelle, tu sais, j'étais allé voir à l'époque Hair au théâtre Saint-Martin, de la Porte Saint-Martin, oui. À sa création, quoi. Mmh. Ça m'avait fait tout un truc que maintenant, bon, je veux dire,
oui.
c'est une légende. Au-delà
tout
de ça,
fait, oui.
On s'habitue à bien d'autres choses.
Tout à fait.
Donc voilà, c'est une façon aussi pour un festival de marquer l'histoire de la danse, de rappeler
oui.
l'histoire de la danse et des contextes
oui,
de
oui,
la
oui,
danse.
Oui, tout à fait, oui. Mmh. Oui, c'est une sorte... j'aime bien de temps en temps avec des spectacles les utiliser, entre guillemets, évidemment, il n'y a pas que ça, mais derrière mon choix, de baromètre un peu, de savoir justement où en est le public dans sa perception des choses, un peu comme un travail sociologique, enfin presque. Hein. Et j'aime vraiment beaucoup ça parce que... quand on est programmateur, enfin moi, ma plus grande inquiétude, c'est de ne plus coller, d'autant plus avec le festival L'Attitude Contemporaine, de ne plus coller à la création actuelle, maintenant, qui a lieu maintenant et tout de suite, quoi. Et d'être, comme disent les jeunes, un peu has-been. Et ça, c'est sûr que j'ai toujours cette crainte, mais en même temps, en effet, c'est important d'avoir justement des repères comme ça, qui nous permettent de savoir où on se situe et où se situe le public par rapport à quoi. Et oui, c'est assez fort de vivre ça, en effet.
Alors, dans le festival L'Attitude Contemporaine, depuis 15 ans, il y a toujours, j'assiste toujours à des prises de risques.
Oui.
C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Je veux dire, ça peut marcher, pas marcher, ça peut fonctionner ou pas. Et puis, il y a des moments choc. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais vu avec une étudiante chinoise, j'avais dit, elle va sortir de là complètement paniquée. Et un spectacle avec un chorégraphe que tu produis dans l'Attitude Prod, voilà, et sur les chaussures, etc. Mmh. Puis qui joue des scènes très dures, je ne sais pas si tu vois de
oui,
quoi
oui,
je
oui,
parle.
Tout à fait.
Et elle est sortie de là subjuguée, quoi. Elle a dit, c'est ça, oh, c'est incroyable. Et donc, voilà, elle était sous le charme déjà de ce danseur. Oui. Et puis aussi sous l'émotion d'un moment pour elle inimaginable.
Oui, je peux tout à fait comprendre. Il s'agissait d'un chorégraphe avec qui on ne travaille plus et je vais éviter d'en parler.
Mais... J'en ai pas parlé.
Non.
Je l'ai évoqué.
Tout à fait. En tous les cas... c'est comme avec les jeunes qu'on suit et les jeunes de la LEFPA, qu'est-ce qu'on peut leur montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur montrer, en sachant que dans ce groupe, ces groupes de jeunes, il y a des Afghans, des Maliens, de gens de toute origine et qui pourraient être très choqués,
sûr,
parce qu'en plus,
sûr.
Ils sont extrêmement jeunes. Hein, c'est des gens qui ont entre 16 et 18 ans. Donc, ils me font des retours très 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 critiques et ils sortent jamais en disant j'ai rien compris ou c'était nul, pourquoi il y a la nudité, ou c'est pas du tout là. Ils essaient de comprendre en fait et d'argumenter des choses et ça c'est vraiment le rôle, un des rôles les plus importants pour moi en tant que programmatrice.
En même temps, je suis pas sûr que dans certaines communautés les choses évoluent positivement pour la libéralisation des présentations de ce type de scène.
Mmh. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est un travail qu'on doit mener, encore une fois.
Par exemple, hier, le moment où les danseurs sortent nus à l'extérieur. Mm-hmm. Bon, il n'y avait personne à l'extérieur, mais il y aurait eu du monde. De ramadan,
tu l'as pas vu,
j'en ai vu quelques-uns, mais il n'y avait pas une
foule. Et en fait, c'était très, très intéressant parce que c'était une famille syrienne, en fait.
D'accord.
Qui était... Donc, il y a une sorte de camp pas très loin du Grand mm-hmm. Sud. Et en fait, ils venaient d'arriver, c'est-à-dire que dans la journée ils partent et ils reviennent s'installer la nuit. Et je les ai vus venir s'installer donc pendant le spectacle. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer?
Ils apprennent ce qu'est la vie en France.
Absolument. Et en fait, ils ont regardé tout simplement.
Bah, voilà, c'est aussi bien.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on se retrouve dans 2 minutes pour parler de la suite de cette programmation, puisque tout n'est pas terminé, bien qu'on soit sur la dernière émission. On annonçait donc quelques événements à venir. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM pour cette 3e émission consacrée au Festival des Latitudes Contemporaines. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Nous sommes toujours en compagnie de Maria Carmela Mini pour la présentation donc de ce festival, un peu bilan aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi quelques périodes à venir où il y aura des choses encore à voir, notamment samedi.
Tout à fait, donc au LAM, donc première édition des Latitudes Contemporaines au musée de Villeneuve-d'Ascq. Donc on va commencer par un parcours dans ce magnifique parc avec arboré de ses œuvres gigantesques de Picasso ou Trocadéro. Et j'adore ce parc.
Oui, bien sûr.
Et donc rien que pour ça, il faut venir voir Yuval Pic avec son spectacle Hydre, puisque nous va nous concocter un parcours dans ce parc magnifique. Et puis ensuite, on entrera dans les salles où il y aura une visite des expositions à travers la chorégraphie qu'il a créée avec ses danseurs donc, du centre chorégraphique. Donc voilà, je n'ai pas vu le spectacle puisque c'est un spectacle qui a été créé il y a quelques années dans un autre site qui est un château, donc rien à voir. Donc là, il y a vraiment une récréation et je me languis de voir ça.
Voilà, alors donc le spectacle de l'artiste
Yuval Pick.
Voilà. Donc à quelle heure et comment il faut s'inscrire? Je crois qu'il faut réserver auprès du LAM.
C'est ça, oui. Donc c'est entrée libre, mais avec une inscription, puisque le nombre de spectateurs est limité. Et donc c'est le 24 et 25 juin à 21h. Donc voilà.
Voilà, puis c'est vrai, c'est aussi une journée globale pour le LAM, je pense.
Tout à fait, hein, oui. Ils ont plusieurs. Donc il y a une visite des expositions aussi, puisqu'il y a une
exposition. C'est un beau moment à passer là, samedi.
Tout à fait, il va faire beau, il y aura le lac. Côté.
le lac avec le lac du Héron,
ouais,
où on voit vraiment des hérons. J'étais étonnée de voir qu'il y avait vraiment des hérons dans ce lac du Héron.
Voilà. Tout à fait.
Donc n'hésitez pas à pêcher, hein. C'est pas ce que j'ai dit, ni à tirer au canard, non, c'est un lac à respecter. Et beaucoup de joggeurs passent là, beaucoup de gens qui se promènent en famille. C'est un lieu très agréable que cet espace de musée. Voilà.
Absolument.
Alors, donc voilà, donc la compagnie enfin de l'artiste irlandaise, on en parlera la semaine prochaine, parce que j'ai prévu de diffuser l'intégralité du reportage que je lui ai consacré. On va rappeler qu'elle sera présente à Ardelot,
tout à
donc
fait,
le 9 juillet.
Absolument, au château de Condette, où il y aura deux représentations, donc de Colette Salter, donc que nous avions présenté à la condition publique, donc spectacle dont le titre est « We are the monster », et donc spectacle jeune public à partir de 4 ans. Et donc dans ce spectacle, Colette Salter interroge le monstre qui est en nous et s'amuse avec les jeunes enfants à révéler le monstre qui est en eux.
Voilà, enfin, ce sont des monstres très gentils,
tout
je peux
fait.
Vous rassurer. Juste une petite chose, elle organise aussi des ateliers et là il faut s'inscrire dès maintenant. Donc allez faire un petit tour sur le site voilà, ou de la compagnie ou pourquoi pas du château d'Ardelot à Condette. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Mais peut-être Elsa, une petite remarque, une conclusion pour la nouvelle spectatrice de danse contemporaine que tu es maintenant?
Presque à ça. Non, c'était une très belle découverte. Je pense que j'ai été surprise assez positivement parce que j'avais beaucoup d'a priori sur le milieu contemporain. Comme beaucoup de monde et comme beaucoup de jeunes, parce que
je me souviens que vous m'aviez dit ça la première fois.
Voilà, donc ça. Mais en fait, non, c'est pas que ça. Il y a vraiment des spectacles intéressants qui sont pas qu'esthétiques, qui ont être radio, mais pas que. Enfin, il y avait vraiment des spectacles intéressants et surtout des spectacles qu'on laisse pas comme ça, mais dont on peut discuter après. Mmh. Donc c'est ça qui était vraiment très intéressant dans le festival aussi.
Tout à fait. Et je me souviens quand vous m'avez dit ça à la première édition. Que vous n'étiez pas trop sensible. Je vais vous accompagner très très bien. Alors j'espère. Que...
Non,
c'était réussi.
C'était à refaire.
Voilà, en tout cas, Elsa, je voudrais te remercier en public pour tout ce que tu as produit, réalisé magnifiquement, pour ton accompagnement sur ce projet de partenariat avec l'Attitude Contemporaine qui s'est bien réalisé pour ce qui me concerne. Et donc, Maria Carmela, bon, on ne peut qu'encourager nos auditeurs à venir samedi voir la suite de la programmation. Et l'année prochaine, à renouveler l'expérience, si j'ai bien compris.
Absolument. Et on aura aussi une petite extension à Arras cet automne. Mais on en parlera après les vacances.
Bien, bonnes vacances à tous. Alors,
oui,
merci beaucoup. Et à très bientôt sur Radio Campus 106.6 FM.
Merci.